Radio Django, La Rose des Vents.
18h21, on passe à La Rose des Vents avec ce soir un sujet, un gros sujet, puisque nous parlons de tissu, de lien social et de perspective professionnelle. Comme on dit, hein, si l'habit ne fait pas le moine, l'habit peut faire l'homme. En d'autres mots, coudre, confectionner des vêtements peut redonner sa dignité à un homme. C'est l'un des objectifs de l'association Amitié à Tisser que nous découvrons dans cette chronique. Alors Daniel, nous parlerons donc de couture uniquement ce soir.
En effet, de couture, de liens sociaux et d'intégration par le travail. À l'origine, l'association Amitié à Tisser entendait proposer des emplois dans un atelier de couture professionnelle à des personnes migrantes formées dans leur pays d'origine à ce métier. Certes, suite à diverses expériences en atelier, le projet, encore en gestation, tend à évoluer vers d'autres formes de collaboration que nous découvrirons donc au fil de cet entretien. Par ces activités, Amitié à Tisser souhaite offrir un nouveau souffle à ces personnes migrantes, tant sur le plan social que professionnel.
Mais alors j'aurais donc presque envie de dire qu'il s'agit d'un projet d'économie sociale, non ?
Alors effectivement, ce projet semble s'inscrire dans une dynamique de renforcement des solidarités sociales et entend répondre à des besoins délaissés par les services publics. L'un des principes de l'économie sociale est de lutter contre l'exclusion. On sait qu'en Suisse, l'accès au marché du travail pour les étrangers répond à des critères très stricts, pouvant marginaliser des personnes susceptibles d'être actives. Et souvent, nombre de migrants se voient contraints d'occuper des postes précaires dans le bâtiment, l'hôtellerie et l'entretien et ne peuvent pas exercer leur profession initiale.
Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux des personnes à l'origine de ce projet. Il s'agit d'abord de vous, Émilie Bovard. Bonsoir.
Bovet, excusez-moi.
Émilie Bovet, bienvenue sur Radio Django. Vous êtes cofondatrice de l'association Franc-Parler. Vous êtes active depuis 2004 dans diverses associations luttant contre toute forme de discrimination et pour la valorisation des échanges de savoir. Et puis, à nos côtés, Anaëlle Chaban, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes styliste, modéliste de formation, couturière indépendante depuis 4 ans à Cuy. Vous êtes très engagée dans la défense des droits des personnes étrangères. Alors, première question pour vous, Émilie, qu'est-ce qui vous a conduit au sein de l'association Franc-Parler à mûrir ce projet ?
Alors, je crois qu'on peut parler, il y a deux axes en fait. Le premier, c'est que donc, à l'association Franc-Parler, on accueille des personnes migrantes, quel que soit leur statut. Et parmi les personnes qu'on accueillait, il y avait quelques personnes, mais je pense une bonne dizaine, qui étaient originaires souvent plutôt des pays comme l'Afghanistan, la Syrie, le Pakistan, et qui exerçaient la profession de tailleur, c'était souvent des hommes, dans leur pays d'origine. Et en fait, beaucoup de ces personnes avaient dû fuir leur pays. Et au moment où ils arrivaient en Suisse, évidemment, ils ne retrouvaient pas de travail dans la confection. C'était souvent des gens qui avaient vraiment un niveau de formation très, très élevé et puis qui ne retrouvaient pas de travail dans ce milieu-là. Donc, on a eu plus d'une dizaine de personnes qui cherchaient du travail dans la confection et qui n'en trouvaient pas. Ça, c'est une des premières réflexions qu'on a eues. Et puis la deuxième, c'est suite à ça, en fait, j'en ai parlé à une première styliste qui, elle, n'était pas couturière de formation et qui me disait, donc Laure Pachou, pour la nommer, elle me disait qu'en fait, la plupart du temps, en tant que styliste, elle dessinait des habits, mais après, pour les confectionner, en fait, elle était obligée de faire appel à des personnes hors de Suisse qui pouvaient coudre ses habits. Et elle trouvait qu'il y avait un côté assez absurde parce qu'elle défendait une économie plutôt locale, notamment dans la confection, et elle trouvait absurde de ne pas pouvoir s'adresser à des gens qualifiés ici. Donc en fait, c'est elle qui est venue à la suite du constat que je lui faisais qu'on avait beaucoup de migrants qui étaient en fait tailleurs dans leur pays d'origine, qui cherchaient du travail. Elle me disait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre en lien? Parce que moi, je suis styliste, je dessine mes habits, mais je dois déléguer, je dois faire mes habits en ex-Yougoslavie pour pouvoir les vendre ici. Donc on s'était dit que c'était une possibilité de se mettre en lien. Le projet, il est né comme ça, de ces deux constats.
Mais fort de ces constats, finalement, quelle est votre analyse du marché du travail et à quels besoins réellement répond ce projet en gestation, en sachant que la couture et le stylisme sont en voie d'extinction en Suisse ?
Bon, mais c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. C'est clair que le marché est en voie d'extinction. Et puis en même temps, on valorise de moins en moins ses capacités locales, l'artisanat local. Bon, nous, on ne prétend pas solutionner le marché du travail de manière générale avec ce projet. Je crois que ce n'est pas aussi ambitieux. Par contre, de pouvoir se dire qu'il y a peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de personnes, même un peu plus à Lausanne, qui seraient vraiment des personnes qualifiées. Anaëlle, qui est à côté de moi, elle valorise elle aussi hein, l'artisanat local. C'est vraiment une de nos priorités. Donc, se dire que par ce biais-là, on peut peut-être contribuer à revaloriser quelque chose de local, mais aussi des savoir-faire autres qui viendraient enrichir cet artisanat local, pour nous, c'est très intéressant.
Et puis, si je peux intervenir, oui, vous dites un secteur en voie d'extinction. Alors oui, je pense qu'on n'est pas du tout en voie d'extinction. Je pense qu'on n'est absolument plus du tout mis en lumière. Donc moi qui évolue dans un milieu d'artisans divers et variés, des celliers, des maroquiniers, des choses comme ça, on est là. Mais c'est juste qu'on ne voit pas. Donc aujourd'hui, via Amitié à Tisser, on a l'occasion de redynamiser. Et souvent, typiquement comme leur Pachou, on a une partie de la chaîne qui est présente en Suisse, mais malheureusement qui a du mal à exister parce qu'on n'a pas tous les maillons qu'il faut.
Mais finalement, quel serait le profil des personnes que vous pourriez intégrer ? Est-ce que ce sont des personnes qui ont le droit de travailler ou pas ?
Alors bon, dans le projet... c'est clairement une partie qui risque d'être un peu compliquée, mais ça s'adresse donc aux personnes dans le parcours migratoire, donc tout ce qui est permis F, permis N, ou les papiers blancs aussi. Après, on va forcément rencontrer des moments où la loi est contre nous, en fait. Justement, là, on va devoir jongler. C'est clair, on ne va pas se mettre hors la loi au travers de ce projet. Et justement, encore une fois, mettre en avant l'absurdité de cette loi où on mène à cette population, on limite à la criminaliser, alors qu'au final, on lui met que des bâtons dans des roues pour exister normalement.
Mais alors, quelle opportunité est-ce que vous pourriez leur offrir ? À quel niveau ? Parce qu'elles ne pourront travailler peut-être que 20, 30 heures, pas plus.
Oui, mais c'est déjà ça. En fait, je crois que le but, là, on n'est pas en train de s'inscrire dans une... On n'est pas en train de révolutionner quelque
chose
complètement.
Le marché du travail.
Le marché du travail, je crois qu'il faut qu'on soit assez clair. On a plein d'idéaux. Après, il y a vraiment le projet dans ce qu'il a de beau aussi, c'est-à-dire peut-être de voir... d'agir avec notre capacité d'action. Et puis, là, typiquement, vous parlez de 20, 30 heures, je pense que c'est déjà énorme, en fait, pour une valorisation. Anna, elle disait, on va peut-être devoir être un petit peu surfer avec la loi. En même temps, on peut engager des requérants d'asile, on peut engager des permis F, on peut engager des permis N. La plupart du temps, alors à partir d'un certain nombre de mois, mais ça peut se faire. Et puis c'est vrai que la plupart du temps, les gens valorisent plutôt des personnes qui viennent de Suisse ou des permis C. Mais on a le droit de dire, non, nous on veut plutôt en fait favoriser un autre type de population. C'est aussi, je pense, notre revendication et elle se fait à cette échelle-là.
Et l'idée, c'est de défendre donc une production artisanale. On est bien d'accord.
Tout à fait.
Au cœur de ce projet. Des transferts de savoir et d'échanges. Cependant, le dialogue interculturel semble poser problème. On va écouter un extrait sonore réalisé par Caroline, une amie à vous qui est réalisatrice. Et à l'issue d'un bilan de vos premières expériences de travail avec les migrants, on se rend compte que la langue reste une barrière.
J'avais des soucis d'échange avec Moussa, mais pas celui-là précisément, parce que Moussa parle beaucoup mieux français que Ali. Toujours un peu par rapport à ses problèmes de langue, etc. Mais je l'ai beaucoup plus vécu avec Ali, qui est venu en stage. Ali, lui, il est afghan. Et je me suis vraiment retrouvée dans des situations où j'expose une tâche à faire, enfin la prochaine étape dans la confection d'un vêtement. Et la personne en face me dit « oui ». Je demande si elle a compris, je demande pas une reformulation parce que c'est tellement dur de choper les mots pour eux, donc j'ai pas été aussi loin. Mais on allait donc vers le travail, convaincu que tout le monde avait bien saisi ce qui devait être fait. Et en fait, dans un échange professionnel, le fait que la personne réponde oui à tout, ça pose problème, surtout si elle a pas du tout compris ce qu'on lui demandait. Et là, je me suis retrouvée pendant 10 jours à constater que il faut que tu arrêtes de dire oui quand tu n'as pas saisi, quoi. Et c'est frustrant, c'est aussi un peu usant cérébralement.
Alors Annaëlle, en quoi est-ce que c'est frustrant et notamment pour qui ? Vous ou les personnes avec lesquelles vous collaborez ?
Alors, je pense que tout le monde est frustré à un moment donné dans ces échanges-là, parce que moi, parce que je perds du temps aussi sur ma production, on va dire, parce que je suis indépendante. Il est clair que l'investissement que je vais mettre dans ce projet-là aura un impact énorme sur ma vie, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que c'est tellement d'énergie déjà d'échanger avec quelqu'un qui n'a pas la même langue que soi. Et eux sont frustrés aussi parce qu'ils n'ont pas de quoi s'expliquer. Ils ne peuvent pas argumenter pour dire j'ai fait cette erreur parce que...
Rien ne légitime en fait leurs revendications. C'est un peu ça. Rien ne légitime leurs revendications étant donné qu'il y a un problème de langue.
C'est ça.
Un autre extrait en fait va montrer un autre écueil rencontré en fait par le travail, ce travail de participation et collaboratif.
j'avais beaucoup d'inquiétude aussi que Moussa, il se braque contre moi, en fait. Et du coup, j'ai essayé quand même de cultiver, pendant les moments de pause, des moments de convivialité pour qu'il voit que c'est juste le travail. Et du coup, c'est ni lui, c'est juste que ouais, voilà, j'en suis sous des standards. Et qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Mais je l'ai très mal vécu. Enfin, toutes ces parties d'échanges, j'ai trouvé ça hyper dévastateur. Ça n'a fait que confirmer les fondements de ce que je pense, quoi, que c'est nocif. Quoi. Pour moi, c'est comme ça qu'on est arrivé à des mots comme mobbing, à des choses comme ça, à mettre les gens dans des situations, parce qu'il faut absolument que la case soit carrée. Donc, parce que j'ai appris en carré aussi. Enfin, tu vois, c'est d'une bêtise à pleurer. Hein, mais, donc là, avoir l'opportunité via Amitié à tisser de faire des losanges, des ronds, des triangles et des flaques, c'est pour moi, enfin ouais, ça n'a pas de prix, quoi. Mais je me questionne aussi sur le fait que comment moi je vais arriver à changer mes formes.
Anaël Chaban, que signifie changer ses formes ?
Clairement, moi, j'ai un parcours scolaire, on va dire traditionnel dans ma discipline. Et du coup, ça m'a initiée à une standardisation, une normalisation qui se réfère à nos standards européens. Mmh. Et je suis confrontée à des gens qui n'ont absolument pas le même parcours que moi. Et en fait, aujourd'hui, via Amitié à tisser, on a la possibilité de sortir de ça, justement, puisque au final, on se rend bien compte dans la société dans laquelle on est que ces normalisations ne sont pas si humaines, ne sont pas si porteuses. Et donc là, via ce projet économique et social, on va pouvoir proposer une autre manière de travailler avec plein de têtes pensantes. Et ça, je pense que ça va être très intéressant et précieux. Parce que, ouais.
Dans quelle mesure, finalement, est-ce que ces expériences vous ont conduit à réorienter votre projet ?
Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le projet. On a beaucoup contacté des gens, des juristes via le SAGE, des avocats qui sont spécialisés dans le droit de la migration, pour se rendre compte quel genre de barrière on allait avoir, parce que le juridique, c'est clairement notre Goliath. Et du coup, on nous a facilement orienté vers la formation parce que du coup, les statuts étaient plus simples pour, comme je disais, la loi qui est contre nous, etc. Avec des formations, ça paraissait plus simple. Puis au final, là, on en est revenu parce qu'on a fait ces essais donc avec Moussa et Ali, et on s'est rendu compte que j'allais ingurgiter en fait la notion d'échange, que ça allait être que mon savoir qui allait être projeté sur ces personnes, et c'était absolument pas ça qu'on cherchait à la base, puisque nous on voulait vraiment que eux apportent leur savoir-faire et que moi je garde le mien et qu'on cohabite.
Mais alors comment est-ce que vous allez valoriser en fait leurs compétences dans alors, ce travail participatif ouais.
Alors du coup on va proposer donc ces personnes requérant d'asile créer en fait une ligne de vêtements. Et donc, a priori, il devrait s'appeler Zigzag, hein, si tout reste en place.
Ça, c'est du scoop, j'ai l'impression.
Presque, ouais.
Et qu'on puisse, au travers de cette ligne de vêtements, mettre en lumière tous ces savoir-faire, toutes ces connaissances qui viennent des quatre coins de la planète. Et peut-être, pour une fois, que ces personnes, au lieu de traduire des émotions un peu de peine, de peur, de tristesse, puissent exister avec des belles émotions pleines de couleurs et de diversité.
Et dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait dire finalement que le vêtement est un fait social global ? Émilie ?
C'est une bonne question. C'est la troisième cofondatrice du projet, Sarah Toketi, qui parle de ça. Mais je crois que ce qu'elle voulait dire par là, c'est vraiment cette question aussi du vêtement comme identité. Et puis qu'on a peut-être tendance à perdre ça de vue, de manière générale. Donc là, peut-être que c'est aussi ça, notre petit investissement.
Notre force aussi,
c'est au niveau identitaire, de juste revaloriser un petit peu les personnes. Parce que souvent, la profession, c'est quand même quelque chose qui valorise. Et puis, évidemment, aussi, si on porte un vêtement au niveau identitaire et qu'on sait d'où il vient et qu'on sait peut-être qu'il a l'énergie de ce projet, nous, ce sera déjà gagné à ce niveau-là.
Mais c'est aussi peut-être un projet qui a l'image de la Suisse, en fait, dans sa diversité et sa dimension multiculturelle.
Du côté positif de la Suisse. C'est aussi justement les luttes qu'on a à faire et qui restent à faire.
Lentement, pas vite.
Pour conclure, quels sont les principaux objectifs de cette démarche ?
Les principaux objectifs ?
Oui, s'il vous plaît.
C'est difficile. Encore une fois, il y en a plusieurs.
Il y en a plein. Il y a valoriser donc, les savoir-faire, la préservation des patrimoines aussi donc, professionnels. Mm-hmm. Clairement, il y a un engagement politique, c'est sûr. Je veux dire, nous, on en fait toutes les trois parties de mouvements qui défendent les droits des migrants. Valoriser cette population. Arrêter de la criminaliser aussi. C'est ça, moi, c'est des trucs, ça me rend folle. Enfin, on les met dans des postures qui sont néfastes et on ne fait rien pour qu'il y ait des échappatoires, des choses logiques.
Mais avant de travailler ensemble, est-ce que vous ne pensez pas que la langue, en fait, reste le nerf de la guerre ?
Moi, je ne pense pas, sincèrement. La langue française ? Non, je crois vraiment, je ne pense pas du tout. Je pense que la langue, elle, comme l'a expliqué Anaëlle, ça peut être compliqué, mais c'est compliqué parce que surtout, c'était la structure professionnelle qui était néfaste dans ce qu'elle a expérimenté. Mm-hmm. Je pense que c'est très différent si on part justement d'une collectivisation des savoirs autour d'une collection, où là, la langue, peut-être qu'elle peut passer par d'autres façons. Le français, il ne s'apprend pas de manière verticale, je pense. Et à ce moment-là, je suis pas sûre en fait que ce soit si compliqué. Que ça. Je pense qu'on peut communiquer différemment et que l'intégration telle qu'on la voit en ce moment, elle passe beaucoup par la langue, une langue très standardisée. Je suis pas sûre que ce soit vraiment la bonne façon.
Bon, puis alors il est pour quand ce projet ?
Il est déjà là. Hein.
Il est déjà là. Oui, il est déjà là. Après les grosses étapes derrière, c'est un We Make It qui a priori se lance en septembre. Il y aura évidemment un événement associé. Mm-hmm.
Avec du crowdfunding.
Voilà. Mm-hmm. Et donc on espère les gens viennent nous soutenir activement de ce côté-là. Mais c'est clair que dans l'absolu, dans le temps, nous on cherche un projet qui s'auto-suffit. Là, on a besoin de vous pour le coup de pouce de départ, à nous d'ouvrir bien nos ailes derrière.
Et ben voilà, c'est ce qu'on essaie de faire ce soir. Hein, on parlait de ce projet d'économie sociale et solidaire avec une double mission, on va le rappeler, valoriser de l'artisanat local et soutenir l'intégration des personnes migrantes en leur permettant d'exercer le métier pour lequel elles ont été formées. C'est l'association Amitié à tisser. Merci beaucoup Anaëlle Chaban et Émilie Beauvais d'être venues nous en parler ce soir.
Merci.
Merci beaucoup.
On vous souhaite plein de succès. On aura l'occasion certainement de reparler de la suite de ce projet à l'automne, courant automne. Merci beaucoup. Un sujet qui était préparé ce soir par Daniel, qui est à écouter sur notre site www.django.fm.